Vous écoutez France Culture.
Sixième sous-sol.
Ça, c'était pour le X-Files. On va en parler là tout à l'heure. Ça, vous la connaissez bien, ça, Marie. Vous allez encore nous dire que vous avez été biberonné à X-Files.
Ouais, je dirais même que dans le monde des séries télé, X-Files, bon, on en parlera après, mais c'est vraiment une marque hyper connue. C'est vraiment l'égal en France, hein, dans le contexte franco-français, c'est l'égal de Columbo, de Starsky Hutch. Je veux dire, c'est une série extrêmement connue, que même les hyper spécialistes, même les gens tous les jours peuvent citer. Quoi. Donc,
alors vous m'avez amené dans un drôle d'endroit pour une rencontre avec X-Files.
Parce que X-Files, c'est ça, c'est les rendez-vous la nuit, c'est les révélations, et c'est vrai que quand la série arrive en 90, là moi je fais mes premières armes de journaliste.
Dans une cage d'escalier.
Quasiment dans une cage d'escalier. Vous savez, on n'avait pas beaucoup de moyens à l'écran fantastique. Je travaillais à l'écran fantastique.
Ah oui, c'est ça, je comprends.
On
n'avait
pas beaucoup de moyens, vous voyez. Et c'est vrai que la série, elle bluffe par plein de choses, parce qu'en fait, c'est pas forcément une série qui a beaucoup de moyens. Je pense à Heroes, par exemple, maintenant, qui a beaucoup plus de moyens. Mais par contre, c'est une série maligne, intelligente, qui sait vous faire croire des choses. Et bon, après, bien sûr, faut aimer le genre, mais on y reviendra. Je pense que la science-fiction, c'est pareil. Si vous adhérez pas, ça marche pas. Mmh. Mais le talent de Chris Carter, et ça aussi, on pourrait y revenir, c'est de draguer plein d'influences, c'est de s'entourer de gens extrêmement compétents qui ont, à une certaine période, renouvelé un petit peu ce qui pouvait se faire de manière visuelle à la télévision. C'est un grand choc, quoi.
Les séries familiales, c'est plus mon truc. Là, j'ai l'impression que c'est plus le vôtre, Eric. Hein. Je crois que je vais vous laisser, en fait. Vous laissez tout seul dans votre cache d'escalier à parler d'X-Files.
C'est super grand, j'ai peur.
Je vous laisse ça.
Revenez. Normalement, il revient. Benoît ? Ça y est, j'ai peur. Benoît ?
Benoît Lagane.
Éric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes.
Épisode 19,
fin des temps et sci-fi boom.
Nous voulions croire. Nous voulions lancer un appel. Le 20 août et le 5 septembre 1977, deux vaisseaux furent lancés depuis le centre spatial de Cap Kennedy en Floride. On les appela Voyager. Chacun d'eux portait un message.
Je vous salue au nom des habitants de notre planète. Nous sortons de notre système solaire pour explorer l'univers dans un but exclusif.
Sur une plaque dorée étaient gravées des images, de la musique et des bruits de notre planète, arrangés de telle façon qu'ils puissent être compris si jamais ils étaient interceptés par une civilisation extraterrestre.
Les enfants de la planète Terre vous disent bonjour.
14 ans après son lancement, Voyager 1 dépassa le plan orbital de Neptune et quitta notre système solaire. Au cours de cette période, aucun autre message ne fut envoyé.
Dans les épisodes précédents, nous nous sommes arrêtés sur plusieurs genres de séries qui ont connu un véritable état de grâce durant les années 90. Une période, en gros, pendant laquelle la télé américaine enchaîne des séries références. Alors, je pense pour la série judiciaire The Practice, A League McBeal, Murder One.
Le fantastique n'échappe pas à ce que j'appellerais la tornade de qualité des années 90. Et en même temps, c'est le contexte, il prépare, puisque bon, on est quand même dans une décennie de fin de millénaire, donc on entend un peu partout tout et n'importe quoi sur. Et pour de vrai, je veux dire, dans les actus, ici en France, On a eu aussi des alertes de fin du monde, si vous vous souvenez bien. Ça venait d'un couturier extrêmement connu. Et puis, on a aussi cette période où, on le voit au cinéma, mais dans les séries, les effets spéciaux se démocratisent et on a de plus en plus de choses impressionnantes à voir à la télé. Alors, si on doit prendre deux exemples, deux grands exemples, nous, pour cette émission aujourd'hui, ça sera X-Files pour la télé.
Aux frontières du réel.
Donc. Ouais, donc héritier à la fois de Twilight Zone, des films politiques du cinéma américain des années 70, et puis de Kolchak, hein, le chasseur de monstres, série des années 70, dont Carter, vous ne la connaissez pas celle-là, mais Carter, je ne l'invente pas, Carter qui dit que c'est clairement son inspiration. De l'autre côté, on parlera donc en science-fiction de Star Trek, alors formidable univers, hein, que moi je ne connais pas extrêmement bien, mais qui m'interpelle et qui poursuit encore sa route après plus de 40 ans d'exploitation aussi bien télévisuelle que cinématographique, et puis maintenant Internet, et donc là, c'est quand même inégalé. Dire que Star Trek c'est donc une création de Gene Roddenberry au milieu des années 60, hein, et que ça a donné lieu à une suite d'œuvres d'une densité quand même assez rare. 5 séries télé, hein, qui ont toutes passé le cap, on va dire, pratiquement des 100 épisodes au moins, et puis une série animée, 10 longs métrages, un 11e en préparation, et puis maintenant un univers massivement multijoueur sur Internet. Donc on voit bien que c'est une véritable galaxie. Hein. Alors si on reprend en l'étage, la deuxième série, la série très importante, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est Star Trek Next Generation, donc Next G, comme l'appellent ses accros. Donc c'est une série qui arrive en 87. Hein, donc elle se situe presque un siècle après la série originelle avec Kirk et Spock. Et cette série, elle a une particularité, en fait. Elle ne va pas être achetée par un network, hein, mais elle va passer directement par la case syndication. La syndication, en fait, c'est-à-dire une diffusion sur les chaînes locales, hein, hors la période de prime time, parce que ces stations, à ce moment-là, elles reprennent le signal d'un network. Mais donc, la série, finalement, elle vit quasiment que sur la renommée de Star Trek, qui a, elle aussi, en fait, explosé en syndication, et pas du tout sur l'antenne de NBC, mais on l'avait vu, hein, dans notre premier épisode sur les séries de science-fiction. Et donc, Next G, elle se construit finalement une personnalité propre, hein, parce qu'on pourrait penser qu'elle va être mangée par le modèle originel. Mais en fait, elle va beaucoup plus loin que ce que voulait Roddenberry dans les années 60. Et en fait, c'est une grande série au-delà du clivage science-fiction et série réaliste, parce qu'elle parle, encore une fois, elle parle du monde d'aujourd'hui.
Alors, il y a d'autres séries Star Trek. Il y a Star Trek Voyager en 1995, qui raconte les aventures d'un équipage dans un vaisseau dirigé, c'est une nouveauté, par une femme. Cette série dure 7 saisons. Ou encore plus récemment Star Trek Enterprise, créé en 2001 et qui a tenté, avec un peu plus de difficulté, les fans n'ont pas été tendres avec cette série, de raconter les origines de Star Trek.
C'est ce qu'on appelait une prequel, hein. Ça se passe presque un siècle pour le coup avant la série originale.
Martin Winkler, spécialiste des séries télé, aime beaucoup cette série. Il nous en parle.
The Next Generation dans les années 80 et Deep Space Nine au début des années 90 sont des séries absolument éblouissantes. Et le fait qu'en France, on ignore au moins les trois premières, ou ne serait-ce que Deep Space Nine, qui est la plus grande série sur la guerre qui ait jamais été faite, qui est une série à suivre sur 7 ans, qui a été conçue dès le début comme une série à suivre et qui parle de la guerre, de l'occupation, de la résistance et de la religion, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé en Yougoslavie, mais aussi dans toute la planète depuis... Bon, que cette série soit inconnue en France, que Deep Space Nine soit inconnue, méconnue en France, moi je trouve ça scandaleux. Et je trouve ça d'autant plus scandaleux qu'on est les premiers à se gargariser de vouloir être les diplomates qui font la paix dans le monde partout. Voilà, s'il y a une série sur la guerre et sur la diplomatie, c'est bien Deep Space Nine. Et ça a été fait par des gens qui avaient grandi avec Star Trek. C'est ça qui est intéressant. Ils avaient grandi avec Star Trek quand ils étaient gamins. Ils étaient tout heureux de bosser sur une série Star Trek et ils ont voulu inventer autre chose. Et ils ont fait quelque chose qui était très différent des autres séries Star Trek dans lesquelles il y a des vaisseaux qui explorent le monde. Là, ils ont fait une série qui se passe aux avant-postes, dans une station spatiale, aux avant-postes d'une planète récemment occupée, dévastée, libérée et qui est en train de se reconstruire. C'est quand même pas rien. Je veux dire, il n'y a rien de plus pessimiste que ça. C'est probablement une des séries les plus pessimistes de l'histoire de la télévision, et elle a duré 7 ans.
Alors c'est difficile hein, de parler de science-fiction aujourd'hui en 2008 sans parler de Battlestar Galactica. Alors pour tous ceux qui ont, on pourrait dire 30 ans et plus, Galactica c'est avant tout une série du début des années 80, produite par Glenn Larson. Une série qui n'a pas très bien vieilli, hein, qui racontait la fuite d'une flotte de vaisseaux spatiaux devant l'avancée de cyborgs implacables. On les appelait les Cylons, vous savez, avec la petite lumière là, qui faisait bip-bip. Bon, à l'époque, déjà, on en parlait comme du Star Wars du pauvre. Et d'ailleurs, George Lucas avait fait un procès hein, à Glenn Larson pour plagiat. Donc, en 2003, Sci-Fi Channel, la chaîne spécialiste de la science-fiction aux États-Unis, décide de produire une série de téléfilms basée sur cet univers-là. Et là, bon, changement de décor, hein, le nouveau Galactica, c'est un univers très très sombre. Ça explore une SF très très réaliste, ce qui est un parti pris finalement assez rare à la télévision. Et donc la série de téléfilms pousse Sci-Fi Channel, en fait, devant l'engouement des fans, à créer une véritable série. Alors BSG, hein, comme l'appellent les fans, à ne pas confondre avec le PSG, c'est la grande série SF des années 2000. Bah, elle a même convaincu des personnes qui ne sont pas très accro de la SF de regarder. Je pense par exemple à ma femme, parce que moi aussi j'ai une femme, Benoît. Et comme toutes les grandes œuvres, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Hein, et ici, la lecture, elle peut être très très politique. Et donc, si vous ne devez en voir qu'une en ce moment, une série de science-fiction, je pense que c'est celle-là.
Alors, à propos de séries de science-fiction, de space opéra un petit peu politique, on ne peut pas passer à côté d'une série plus ancienne, que la nouvelle série Battlestar Galactica. C'est une série signée Joe Michael Straczynski et c'est Rick Babylon 5, qui est diffusée entre 1993 et 1999. C'est un véritable monument de la science-fiction. Cette série raconte comment, depuis une station spatiale, Babylon 5, des hommes et des femmes tentent de régler pacifiquement les conflits auxquels la galaxie doit faire face. Et nous sommes dans la série en 2258, une sorte de ONU de l'espace. Au-delà de l'histoire qu'elle développe, cette série va rester longtemps dans les annales de la télé comme l'une des premières à être véritablement conçue comme un roman télévisuel. C'est-à-dire qu'il y a 5 saisons comme 5 tomes d'un roman. Et Straczynski, qui a écrit cette série, a vraiment tout supervisé, tout écrit quasiment du début jusqu'à la fin.
C'était écrit avant d'être tourné. Simplement, il aurait eu, je crois, besoin d'une saison ou deux de plus. Et Straczynski, maintenant, c'est pas l'homme d'une seule série, hein. C'est quelqu'un qui, après, s'est mis à écrire de manière très prolifique, et pour la télé, et pour maintenant le cinéma, et puis je pense aussi au comics book.
Allez, vite, allez, dépêchons, allez. On se met en position, à moins 5, on lance l'offensive.
Qu'est-ce qui se passe, ma maison ?
C'est bon, laissez passer.
Qu'est-ce qui se passe ?
Madame Boudard,
oui ?
Votre époux a violé la procédure de sécurité. Il a volé un véhicule militaire, possible qu'il soit armé.
Première équipe, allez-y.
En avant !
On est entrés !
Il faut absolument que je lui parle.
Il n'a pas l'air bien.
Alors, X-Files aux frontières du réel, on pourrait presque dire que ce fameux sci-fi boom des années 2000, donc cette explosion de fictions télé qui ont un rapport avec le fantastique, et on ne pourra pas traiter de toutes ces fictions, hein, mais ce sci-fi boom, il se fait quasiment autour hein, de la série de Chris Carter en 93. Alors, c'est une production, paradoxalement, sur laquelle peu de gens pariaient à l'époque. Et en fait, Carter, il accouche d'une série que je qualifierais de patchwork, hein, dans le sens où elle emprunte des éléments à de nombreux univers. Alors, c'est aussi un petit peu ce que lui reprocheront ses détracteurs, hein, qui disent finalement, X-Files, c'est la quatrième dimension, c'est beaucoup de films d'extraterrestres, et d'ailleurs, dans les premières saisons, on peut voir hein, les influences, il y a pendant l'épisode qui se passe dans une base arctique, qui ressemble très clairement à, par exemple, au film The Thing hein, de John Carpenter. Donc bon, bref, pour tout ça, la série bon, crée une petite polémique par rapport à ça, mais je pense qu'au-delà de ça, le talent de Chris Carter, c'est certainement de s'être remarquablement entouré, hein. Donc je pense à Matt Beck pour les effets spéciaux. Faut imaginer qu'à l'époque, c'est les premiers effets en images de synthèse, mais vraiment réalistes. Je pense En fait, grâce à des séries comme Star Trek, on a déjà vu beaucoup d'effets spectaculaires, genre des planètes qui explosent, des choses comme ça. Là, on rentre dans le domaine des effets spéciaux que j'appellerais invisibles. Et c'est par exemple la série, les agents du FBI sont censés se déplacer un peu partout aux États-Unis. On sait très bien que la série est tournée à Vancouver. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une multiplication de fonds verts, d'images truquées. Et en ça, X-Files, elle va quand même révolutionner son monde. Je pense aussi à John Bartlett, qui est le directeur de la photographie, bon, aujourd'hui il s'occupe de Lost, mais c'est aussi quelqu'un qui a créé vraiment un univers, cet univers bleu, ses lumières, tous ces non-dits, parce qu'en fait, quand par exemple vous avez une grande lumière blanche qui vient aveugler Mulder et Scully, on ne peut pas savoir si c'est un hélicoptère ou si c'est une soucoupe volante, et eux ils adorent jouer avec tout ça. Donc du coup, ça crée aussi finalement les conditions du malaise dans la série.
Oubliez donc ce dossier, agent Mulder.
Quoi ?
L'armée de l'air refusera d'admettre que le FBI ouvre une enquête.
Qui êtes-vous ?
Disons que je peux vous être utile. J'ai le plus grand intérêt pour votre travail.
Pardon ? Et qui vous a parlé de mon boulot ?
Eh bien, sachez que je suis très bien placé pour savoir des tas de choses, même des choses concernant le gouvernement.
Mais qui êtes-vous ? Et pour qui travaillez-vous ?
Aucune importance. Je ne suis venu que pour vous donner un bon conseil. Vous allez exposer votre vie et celle de l'agent Scully à des risques inutiles. Et vous feriez mieux de laisser tomber ce dossier.
Je regrette, je ne peux pas.
Vous avez un brillant avenir, agent Mulder. Pourquoi le mettre en péril pour une affaire qui n'en vaut pas la peine ?
C'est bien beau tout ce que vous dites, c'est tout à fait juste, mais peut-être en deux mots, rappelons ce qu'est X-Files. Les enquêtes donc paranormales de deux agents du FBI, Dana Scully et Fox Mulder. Dana Scully est un ancien médecin, elle est chargée par sa hiérarchie de travailler au bureau des affaires non classées, aux côtés d'un agent un peu spécial, voire à la marge, l'agent Fox Mulder. Alors pour en savoir plus, nous avons rencontré Séverine Barthes, elle est l'une des animatrices d'un site internet asuivre.org très actif. Elle connaît très bien l'univers de cette série, que nous vous invitons au passage à redécouvrir vivement en DVD à l'heure où sort sur les écrans de cinéma le deuxième opus.
Carter est peut-être plus quelqu'un qui a traduit l'ambiance, si tant est qu'on puisse parler d'ambiance, du moment. C'est vrai que j'ai l'impression, quand on étudie un peu en transversal, c'est-à-dire qu'on prend les trois séries, même les quatre, X-Files, Millennium, Archrealm et The Lone Gunman, on n'a pas un discours social prédéterminé, fort, sur des thématiques de société spécifiques. J'ai l'impression que Carter touche plus des problèmes supérieurs à ça, si je puis dire. Le problème de la communication entre les gens, problème de comment on vit ensemble, des problèmes aussi, à mon avis, plus personnels de Carter, les thématiques de la famille, qui paraissent pas comme ça au premier abord, quand on regarde X-Files ou Millennium, enfin Millennium un peu plus quand même, la thématique de la famille, mais c'est pas ce qui paraît évident au premier chef. Et pourtant, quand on regarde de façon plus précise ce qui se dit, ce qui se fait dans les épisodes, et notamment, je trouve aussi, la relation de Carter avec ses fans, qui me semble pas suspecte, c'est pas le terme, mais lourde de sens.
C'est-à-dire ?
Effectivement, le fan a une place prépondérante dans les séries de Carter. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres créateurs ou d'autres séries qui vont jouer avec le fan, mais c'est vrai qu'il y a un effet masse, quelque part, je trouve, dans les séries de Carter, et notamment dans X-Files. Alors effectivement, on a des choses qui sont évidentes dès qu'on les voit. Par exemple, le personnage de Leila Harrison dans la saison 8, qui vient remplacer un des agents et qui en profite pour demander à Doggett poser plein de questions sur Mulder et Scully parce qu'elle connaît toutes les enquêtes. Et elle est donc l'image du téléspectateur qui connaît tous les épisodes et qui se demande « Mais dans tel épisode, après le générique, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer entre Mulder et Scully ?» Ou « Est-ce que réellement, Toombs, il était vraiment comme ça ?» Elle pose toutes ces questions-là que les fans se posent. Et qui sont les interrogations qu'on voit si on regarde sur Internet, les forums à l'époque, mais encore même parfois maintenant sur X-Files, et questions que se posent les X-Files, c'est-à-dire les fans d'X-Files. En revanche, on a des choses plus discrètes. Ça peut aller de la dédicace d'épisodes à des fans décédés. Alors ça, j'ai pas vu ça ailleurs que chez Carter. Mm-hmm. Parce que dédier un épisode à un fan qui vient de mourir d'un cancer, enfin, il y a aussi quelque chose, je trouve, d'assez... pas malsain, mais enfin... difficile. Et là, je trouve qu'on touche justement la... aussi la difficulté de la relation. À mon sens, elle vient combler quelque chose. C'est-à-dire que ma théorie, sur la théorie, on n'a pas cessé de dire que Carter, c'est la théorie du complot, et tout ce qu'on a lu dans la presse, enfin, beaucoup de choses qu'on a lu dans la presse, à ce moment-là aussi, ou dans, même dans les recherches universitaires, aux États-Unis, en France évidemment, sur le thème, c'était le complot, la paranoïa, les peurs fin de siècle, les peurs contemporaines, les virus, l'informatique qui va nous manger, le gouvernement obscur, etc. Alors qu'en fait, moi je pense que ce qui sourd vraiment d'X-Files, c'est la peur de ne plus avoir d'autre. C'est pas la peur de l'autre, c'est la peur de ne plus avoir l'autre. Avec justement ces fans qu'on va voir sur Internet, avec qui on discute, à qui on rend hommage en dédiant des épisodes, en donnant des noms de fans ou des pseudos, des fans, soit des personnages, soit sur des listes, des listings qui apparaissent à l'écran rapidement, et hop, on voit, c'est la liste des membres de tel forum de fans d'X-Files, avec cette mise en scène du fan, c'est plein d'appels du pied. Il arrête pas de lui dire, j'ai l'impression qu'il arrête pas de dire à ses fans, je vous aime, je vous aime, je vous aime, alors aimez-moi. Ce qui pourrait correspondre en plus, enfin, je vais pas faire de la psychologie à dessous, mais Carter n'a jamais fondé de famille. J'ai vraiment l'impression que ses enfants, ce sont ses fans, et que c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Peut-être, alors là, je vais me faire taper dessus, mais peut-être parce que les autres sont plus équilibrés que Carter, mais, il y a quelque chose, il me semble, effectivement, de très particulier, et où la thématique de la famille, qu'on a de façon affichée dans Millennium, puisque Frank Black perd sa femme, veut protéger sa fille, enfin, là, c'est évident, mais je pense que ça a été aussi une forme d'apprentissage de téléspectateurs, justement, cette sorte de communication ouverte, qui fait qu'aussi maintenant, il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup plus de fans qui s'impliquent, qui écrivent, qui font des choses autour des séries.
Je n'ai peut-être plus les affaires non classées, mais j'ai toujours mon travail. Et puis, j'étais toujours toi. Et j'ai toujours ma vie.
Alors cette fin de décennie, c'est aussi celle des séries qui mettent en scène des héros providentiels. Les Américains, ils aiment bien ça. Je pense que le fait qu'à cette époque-là, ils aient envie de créer de nouvelles séries avec des personnages dits messianiques, censés sauver le monde, c'est pas anodin. Et il y a bien évidemment, à cette époque-là, à la même période qu'X-Files, enfin quelques années plus tard, l'arrivée sur les écrans américains du fameux Jarod le Caméléon. Le Caméléon raconte l'histoire de Jarod. C'est une série sous la forme du jeu du chat et de la souris qui raconte donc les aventures d'un être surdoué, Jarod, enlevé à l'âge de 8 ou 10 ans par une organisation secrète, le Centre. Pour pouvoir utiliser les dons de cet être hors du commun, cette organisation va formater Jarod pour qu'il devienne un homme capable de prendre multiples identités. Malheureusement pour le Centre, mais heureusement pour le téléspectateur, Jarod s'évade dans le premier épisode, et pendant 4 saisons et 2 téléfilms, il va parcourir tous les États-Unis à la recherche de son passé. Et les auteurs cachent assez bien leur jeu hein, au fil des épisodes, mais on finit par comprendre quand même assez bien l'idée de Long Mitchell et Van Sickle, les deux créateurs. La série en gros pose le postulat suivant: et si aujourd'hui le Messie venait sur Terre pour changer la face du monde, viendrait-il au monde sur la Terre promise américaine?
Ils ont leur réponse, ouais, a priori c'est oui.
Voilà, c'est oui, c'est le Jarod, le Caméléon. Jarod, J-A-R-O-D, Jésus, enfin même les premières lettres. Vous voyez le lien? Bon, bref. Et si un groupuscule mal intentionné avait connaissance de son identité, ne l'utiliserait-il pas à des fins pas très nettes?
On voit dans la série, c'est oui, hein, puisque le Centre a assez servi de Jarod quand il était enfant, adolescent, mais maintenant le Caméléon s'est échappé.
Voilà. Alors, dit comme ça, on a l'impression d'être dans une série prétentieuse, un peu pompeuse, qui nous refait la Bible à coups de science-fiction et de fantastique. Ce n'est pas du tout le cas. Les auteurs s'amusent quand même beaucoup, et il y a plein de clins d'œil. Et donc, ils arrivent à raconter tout ça sans alourdir leurs propos. Ce qui est intéressant par rapport à cette série, c'est que Elle a donné des idées à beaucoup d'autres, et je pense en particulier à une série qui a tenté un copier-coller mais un peu loupé, John Doe, qui reprend la même idée de ce personnage venu d'on ne sait où, mais venu pour sauver le monde, et en particulier les États-Unis.
Il existe des caméléons parmi nous.
J'ai été enlevé à ma famille.
En 36 heures, il a prouvé qu'il avait plus de talent que tous les autres réunis.
Sidney, combien de gens sont déjà morts à cause de moi?
Je suis à la recherche de mon passé.
C'est un caméléon. Un génie qui peut prendre n'importe quelle apparence.
Le centre veut le récupérer vivant.
De préférence.
La vie est un cadeau.
Vous êtes vraiment docteur?
Oui, pour la journée.
Alors Benoît, vous parliez de série messianique, une autre série messianique, pour moi en tout cas, post 11 septembre, c'est très clairement Heroes, hein, lancé en 2006 par Tim Kring. Alors c'est un passionnant d'exercice de style autour de la figure du super-héros, hein, et de la fin du monde, mais au-delà de ces thèmes, c'est surtout une série qui, comme Lost, joue, je trouve, avec les limites de ce qu'on peut faire en télévision, limites en termes de production, hein, puisque la série se déroule à différentes époques, elle se déroule aux quatre coins du monde, et surtout aussi aux quatre coins des États-Unis, et donc en fait chaque épisode, en termes de production, est un petit miracle. Alors, on crie vite au loup quand ce type de série devient plus faible, mais faut jamais oublier que ça reste vraiment de la très très grande série.
This quest, this need to solve life's mysteries with the simplest of questions can never be answered. Why are we here? What is the soul? Why do we dream?
Life's a show, and
perhaps we'd be better off not looking at all, not delving,
and
not yearning.
Six stars.
That's not human nature.
Ces années 90, les nouveaux super-héros télévisuels doivent combattre toujours les mêmes méchants qui veulent détruire l'humanité, mais c'est aussi des super-héros qui ont leur interromat le lendemain, ou alors qui doivent séduire un partenaire qui ne veut pas d'eux. Et donc là, on est dans une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus désarmante, et ça, c'est vraiment très intéressant.
Oui, parce que c'est à l'opposé, finalement, des séries un petit peu fin du monde, fin des temps, où là...
Même si l'idée persiste. Hein,
oui, mais... l'idée persiste, mais finalement, on est plus là dans l'idée de séries qui ont envie de raconter ce qu'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte, plus que nous raconter une attaque terroriste sur les États-Unis, quoi. Là, avec, par exemple, je suppose que vous allez nous parler de Buffy, mais on peut parler, en parlant de super-héros, de Smallville, qui est la jeunesse, l'adolescence de Clark Kent, alias le futur Superman. On est là, véritablement, voilà, dans ces séries qui nous racontent la vie d'adolescent doté de super-pouvoirs, quoi. Et comment on fait avec ?
Buffy, c'est ça, hein. Joss Whedon, en fait, le créateur de Buffy, en tout cas au début, quand il raconte sa série, il dit que c'est une métaphore sur ce qui m'est arrivé moi au lycée, quoi. Le lycée, c'est l'enfer, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il met des images sur ses mots, et donc les méchants sont des vampires, sont des momies, sont des loups-garous, qui infestent en fait les couloirs d'un collège à Sunnydale, et Buffy est là pour défendre le monde. Alors, Buffy, c'est bien plus complexe que ça. Encore une fois, on pourrait parler très longtemps sur cette série. Ce qu'on peut dire, c'est que vous parliez de Smallville. Alors Smallville, l'influence est très clairement le comics, hein, puisque c'est l'histoire de Superman. Buffy, c'est un petit peu l'inverse, puisque la série s'est arrêtée désormais aux États-Unis, mais qu'elle continue sa vie sous la forme d'un comics book. Hein. Donc là, on a une boucle qui est bouclée.
I've got a theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right there.
I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare.
I've got a theory, we should work this out.
It's getting eerie, what's this cheery singing all about?
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Pierre Monteil.
réalisation Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagane et Éric Véra. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur franceculture.com à la page de notre émission. Et puis, poursuivez l'aventure dans les pages de générique qui consacrent, entre autres, tout un dossier à la série X-Files. Rendez-vous lundi à 22h30 pour notre 20e épisode consacré au 11 septembre. Bonne nuit.
Because it clearly could get serious before it's past.
Il est 23h sur France Culture. Retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes annonces.